Bonjour à tous. Après ces longues semaines de silence, l'humeur vagabonde est enfin de retour. Claire Tesser, Xavier Pestugia et moi-même, nous sommes vraiment heureux de vous retrouver. Aussi en août, nous vous proposerons 4 rencontres avec des auteurs étrangers, bien sûr enregistrées juste avant la fermeture des frontières. Et puis en septembre, bien entendu, nous reviendrons en direct pour une nouvelle saison. Bel été à tous.
Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
En ce temps-là, l'Europe honteuse de Munich s'apprêtait à basculer dans une guerre qui se solderait par des destructions inouïes, des millions de victimes et de déplacés, le génocide des Juifs et le partage du continent en 2 camps adverses. En juin 40, alors que les hordes hitlériennes semblent impossibles à arrêter, l'Italie mussolinienne, neutre pendant un temps, choisit d'entrer dans le conflit, espérant ainsi élargir son territoire. Mais son armée est loin de correspondre à ce qu'en dit le Duce, qui a refusé d'entendre les mises en garde du maréchal Badoglio, pas plus que celle de son gendre, Galeazzo Ciano, qui se méfie des Allemands. C'est dans ce chaudron empoisonné, juste avant l'irrémédiable, qu'un jeune homme de 27 ans, fils adultérin d'un prince sicilien, playboy charmeur, décoré durant la guerre d'Espagne et ami intime de Ciano, va jouer les espions pour tenter d'éviter l'entrée en guerre de l'Italie. Ottavia Casagrande, sa petite fille, publie chez Liana Levi, traduit par Marianne Faurobert, « L'espion inattendu », un récit que l'on croit tout d'abord totalement romancé, tant il est incroyable. On y trouve tout et trop de ce qui constitue ce genre littéraire. La belle espionne anglaise qui séduit l'agent italien, les fuites échevelées dans des déguisements absurdes, les microfilms, le poison, les filatures, les agents doubles, une Rolls et un corbillard, un rendez-vous secret avec Churchill et Ciano dans un sauna. Et pourtant, c'est juré, tout est vrai. Bonsoir Ottavia Casagrande, merci d'être venue nous voir depuis l'Italie. Ce grand-père, l'espion inattendu, votre mère ne l'a pas connu, elle est née après sa mort.
C'est ça.
Vous-même, vous aviez peu de documents et tout d'un coup, quelque chose s'est emparé de vous comme une nécessité. Vous avez plongé dans les archives de l'État italien pour retrouver la trace de cet homme et vous êtes allé de surprise en surprise. Mais c'est vrai que quand on lit votre livre, on se dit c'est pas possible, c'est trop. Cet homme était trop,
il a vécu, en plus il est mort très jeune, dans des circonstances mystérieuses, à 39 ans. Et chaque fois que je pense à sa vie, je me dis c'est incroyable que en seulement 39 ans, il ait pu vivre une vie aussi fantastique. Tout est commencé du fait que ma mère ne l'ait pas connue, parce qu'elle est née 2 mois après sa mort. Bon, elle a vécu sa vie, une vie pleine. Mais à un certain moment, je me suis rendu compte que pour elle, c'était devenu impératif de connaître son père. Parce que c'était un personnage légendaire en Italie, parce qu'il a inventé le calciomercato, parce que la chanson Vecchio Frac de Modugno est inspirée par lui. Et parce qu'il y avait plein d'anecdotes incroyables sur sa vie. Mais c'était très difficile de comprendre quel genre d'homme il a été. Et je crois, avec l'âge, ma mère a voulu découvrir ses racines et d'où elle venait, et plus se contenter de toutes ces anecdotes et toutes ces légendes sur son père. Et elle a commencé à être un peu pressante envers moi. Alors je me suis dit, c'est important, je vais le faire pour elle, en fait. C'était vraiment un acte d'amour pour elle. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'à un certain moment, on a retrouvé une valise avec toute la correspondance de la famille de 1903 à 1954 quand mon grand-père Raimondo meurt. Et alors on a découvert vraiment beaucoup de choses et surtout qui il était. Parce que il avait été séparé de sa mère à l'âge de 12 ans. Et donc il écrit très souvent à la maison, à sa mère. Et on a découvert toute son enfance, disons. Et moi, j'ai commencé à écrire le livre parce que j'ai compris que ma mère voulait entendre l'histoire de son père.
Alors, ce Raimondo Lanza di Trabia, à qui vous consacrez l'espion inattendu, Ottavia Casagrande, c'est un homme séduisant, c'est un homme mystérieux, c'est un homme surprenant. On va écouter la première lecture d'une page de votre livre qui décrit un peu ce personnage étrange.
Risquer sa vie pour mesurer sa valeur. Cette devise, qui ornait un timbre commémorant une quelconque gloire fasciste, surgit tout à coup de ses souvenirs d'adolescence et se mit à lui trotter dans la tête. Bien qu'il eût grandi dans une famille où l'on souriait de certaines choses, Raimondo aussi, comme toute sa génération, avait été abreuvé de slogans qui semblaient tous tirés d'un manuel de poche de l'héroïsme ou d'un abécédaire de la politique. Il repensa à l'Espagne, ce qui lui arrivait souvent ces temps derniers. Il s'était engagé à 20 ans, poussé par la soif d'aventure et par un épineux problème d'ordre sentimental. Mais la propagande du régime avait aussi pesé son poids. Il aurait menti en affirmant le contraire. Au surplus, il s'était agi dans son cas, paradoxalement, d'un acte de rébellion contre sa famille qui n'appréciait guère le fascisme. Il avait embarqué sur un navire sans nom, battant pavillon grec, pour prêter main forte à Franco. Malgré une pointe de scepticisme, il voyait la guerre comme l'épreuve suprême de l'homme et de son peuple. Il croyait à la belle mort et autres trouvailles belliqueuses du régime visant à endiguer le péril rouge. Mais à son retour, après avoir combattu sur les deux fronts, les deux idéologies avaient considérablement perdu de leur attrait. Raimondo avait compris qu'il aimait trop la vie et la liberté pour les sacrifier sur un autel quelconque. Combattre pour une cause, était-ce vraiment une bonne raison de vivre? S'il lui manquait quelque chose, c'était plutôt une cause pour laquelle mourir. Mais à y bien réfléchir, y a-t-il une mort plus stupide que de mourir pour une cause? Les nobles idéaux n'étaient pas faits pour lui. Il l'avait compris, désormais. Il le faisait sourire. Pire, il le mettait mal à l'aise. Il lui semblait, selon les circonstances, simplement hypocrite ou fatalement naïf. Restait l'amour du risque, les vertiges du danger et un vague sentiment de révolte. Un besoin irrésistible de dépasser les bornes, d'enfreindre les règles, de fouler aux pieds les conventions. Et en premier lieu, celles ridicules et bigotes des fascistes. Mais il n'avait plus besoin de rédemption pour descendre aux enfers, ni d'aucune excuse pour se confronter à l'abîme.
Ottavia Casagrande, votre grand-père Raimondo Lanza di Trabia s'est engagé à 20 ans pour combattre en Espagne du côté des fascistes. Il faisait partie des légions italiennes, commandées par Ciano d'ailleurs, oui. Et il a combattu, il a été décoré. Et en même temps, il s'est retrouvé du côté des républicains, oui. Parce qu'on lui a demandé d'aller les espionner, oui. En gros. Et là, il y a quelque chose qui se passe, comme si les deux idéologies et les deux combats s'annulaient dans sa tête. Et que, né dans une famille antifasciste, il se trouve tout d'un coup ne plus croire en rien. C'est ça qui s'est passé, il ne croyait en rien.
Il ne croyait en rien, oui. Je crois que c'est un des aspects les plus modernes de Raimondo, que dans un siècle très idéologisé, lui était très concret et il ne croyait pas aux idéologies. C'était un homme d'action, évidemment, pas d'idées, mais d'action, très courageux, mais il mettait d'abord l'homme. C'était toujours... Parce que quand il passe de l'autre côté, chez les républicains, pour espionner, envoyé personnellement de Ciano, d'ailleurs. Donc il combat avec les républicains pendant des mois, et puis il rentre. Et quand il rentre, ça c'est une anecdote prouvée, quand il rentre, Chano lui demande alors les informations pour lesquelles il avait été envoyé là-bas, et Raimondo répond, je peux rien te dire, j'ai combattu avec eux, les coups de fusil créent une camaraderie, je pourrais pas les trahir. Et il raconte rien de ce qu'il a découvert. Alors, dans un régime totalitaire, le genre de Mussolini, lui répondre comme ça et ne pas être fusillé pour trahison, c'était quand même extraordinaire.
En fait, il fonctionnait, ce Raimondo, à l'amitié et à l'amour. Parce qu'en plus, alors c'est ce qui va expliquer ensuite cette espèce de pas de deux entre les alliés, les occidentaux d'un côté et l'Italie fasciste de l'autre. Il va tomber amoureux d'une espionne anglaise. Elle s'appelle Cora, enfin c'est son nom d'espionne. Et elle est professeure chez des sœurs britanniques. Et là, c'est un moment où on se dit, mais franchement, Ottavia Casagrande nous raconte un roman parce qu'il va s'enfuir avec elle déguisée en bonne sœur, mais enfin, et puis ensuite ils vont se retrouver à fuir dans un corbillard. C'est absolument incroyable. Est-ce que dans cette correspondance, il parle justement de cet amour, de cette passion? Il était fiancé quand même, oui, à votre grand-mère, Susanna.
Non, pas ma grand-mère. Ma grand-mère était une comédienne, Olga Villi. Et oui, dans le livre, il se fiance avec Susanna Agnelli. Et puis, il ne se marie pas.
Ah, il ne se marie pas avec elle, finalement.
Non, il ne se marie pas.
Mais donc, du coup, il est, par amour, plus ou moins amené à fréquenter les Britanniques.
Par amour et par intérêt, je dirais. Parce que sûrement, il est pris de passion, c'était un homme à femme. Et donc, il est souvent, dans toute sa vie, ça c'est pas un mystère, pris de passion pour différentes femmes. Mais en fait, comme dans tous les romans d'espions, ils s'utilisent les deux. Il y a un grand amour, mais c'est aussi un rapport d'utilité. Et donc Cora pense de se servir de Raimondo pour avoir des informations, et Raimondo se sert de Cora pour passer des informations aux Anglais.
Et surtout, pour obtenir aussi des renseignements qui vont lui être utiles, parce qu'il a une grande amitié pour Ciano, le gendre du Duce, le ministre des Affaires étrangères de l'Italie. Un ministre des Affaires étrangères assez étrange, parce que il est embringué dans ce pacte avec les nazis. Et d'ailleurs, on va écouter juste une très brève archive qui date du 22 mai 1939. C'est la conclusion de l'alliance germano-italienne.
Le ministre des Affaires étrangères du Reich, M. von Ribbentrop, est accueilli par le comte Ciano, ministre des Affaires étrangères d'Italie. Les conversations des deux hommes d'État aboutissent à l'alliance germano-italienne définitivement consacrée.
On vient d'entendre que c'était quand même une alliance d'État. Ciano obéissait.
C'est Ciano qui la signe.
Oui, c'est Ciano qui la signe. Et en même temps, il n'arrête pas de demander à Raimondo de voir s'il n'y a pas une possibilité de contrer les Allemands quand même. C'est un drôle de jeu qui est joué à ce moment-là par Ciano.
Oui, alors Ciano a toujours été ambigu dans sa politique étrangère et désinvolte dans son utilisation des services secrets. Ceci dit, il faut dire que ce qui se passe entre le pacte avec les Allemands, c'est le Ribbentrop-Molotov. Et donc, Ciano, c'est pour ça qu'au début du livre, il est tellement agacé avec les Allemands, parce qu'il s'est senti trahi. Le grand ennemi du Duce, de Ciano, de l'Italie fasciste,
ce sont les communistes.
Russes. Et donc, que ses alliés aient signé à son insu un pacte avec les Russes, c'est inconcevable pour lui. Ce qui lui donne, disons, l'excuse aussi pour rompre le pacte. Première trahison, disons, deuxième trahison, Hitler déclenche la guerre sans prévenir l'Italie. Et c'est à ce moment-là que Ciano se dit, ses alliés, il faut pas trop leur faire confiance, peut-être il vaudrait mieux aller dans l'autre camp. Ce qui était arrivé dans la Première Guerre mondiale.
Alors, Ottavia Casagrande, il y a ce personnage de votre grand-père que vous décrivez dans le livre L'espion inattendu, mais il y a aussi beaucoup de portraits du comte Ciano, oui, qui devient un personnage de comédia dell'arte presque. On voit quelqu'un de gros, qui est sanguin, oui, qui passe par des phases de folle enthousiasme et de profond désespoir. Vous le peignez toujours dans une baignoire ou dans un sauna. Oui. Il est très ami avec Raimondo Lanzaditra. Rabia, et il lui demande en gros d'essayer de jouer un double jeu pour que l'Italie ne rentre pas en guerre. On a entendu l'archive en 1940, il n'y réussira pas. Et pourtant, il est le propre gendre du Duce. Il a épousé sa fille Edda. Et je vous propose d'écouter une archive qui va sûrement vous intéresser. En 1974, Edda Ciano était reçue à Paris, à la télévision, dans une émission où elle parlait justement de son défunt mari qui a été fusillé à la Libération, en jurant que jamais, jamais, il n'avait eu aucun lien avec les Alliés.
Je ne crois pas qu'il a été un des artisans de l'alliance avec l'Allemagne. C'était mon père qui l'a volé, et comme il était son ministre des Affaires étrangères, il devait suivre.
Quelles ont été les grandes étapes de sa carrière? Bon, disons qu'il a été ministre des Affaires étrangères, ça a été...
Oui, il était très jeune quand il est arrivé, mais je crois que même s'il ne s'était pas marié avec moi, il serait arrivé tranquillement à la même place. Un peu plus tard, peut-être. Parce qu'il était très intelligent, très cultivé, très préparé. Ce n'était pas un imbécile, comme tout le monde dit. Ce n'était pas un playboy. C'était un homme, tout simplement un homme.
Il a été ministre à 33 ans, je crois.
33 ans.
Et il est resté ministre des Affaires étrangères presque jusqu'à la fin.
Oui, en 1943, février, il a quitté son poste.
Pour être ensuite ambassadeur au Vatican, je
crois. Oui.
Ça.
On dit aussi, madame, que le comte Ciano avait eu vers la fin des contacts avec les Alliés. Cela est-il vrai?
Non, ça je ne crois pas. Absolument.
Alors, Ottavia Casagrande, vous venez d'entendre Edda Ciano dire que jamais, jamais il n'y a eu de contact avec les Alliés. Or, vous, dans ce livre-là, vous racontez qu'en fait, Raimondo était chargé non seulement de voir ce qui se passait du côté des Américains, s'ils étaient en train de mettre au point une bombe atomique, et en même temps, il serait parti en Grande-Bretagne pour rencontrer secrètement Churchill. Vous racontez cet entretien, d'ailleurs. Est-ce que vous avez les preuves dans les documents que vous avez retrouvés de cette rencontre de Raimondo, votre grand-père, au nom de Ciano, avec Churchill?
Alors, il y a beaucoup d'indices. Alors, les preuves, justement, puisque c'était une opération pas officielle, non. Mais il y a beaucoup d'indices qui indiquent cette direction. D'ailleurs, c'était une pratique, et je pense que ça l'est encore, une pratique très répandue, quand il y a une guerre, de parler avec les deux camps, jusqu'au moment où on décide à quel moment déclarer la guerre. Oui, Ed a dit qu'il n'a pas eu de... ce qu'elle dit vers la fin de la guerre. Probablement, d'ailleurs, malheureusement, Ciano fait une fin tragique. Et Ed, par contre, c'est ce qui perd Ciano, d'ailleurs, faisait très confiance aux Allemands. Et c'est pour ça que quand il s'échappe, elle va en Allemagne. Et c'est là qu'il finit emprisonné, Ciano, et c'est après qu'il viendra fusillé. Il sera fusillé par le Duce, mais de fait par les Allemands. C'est étrange, je ne connaissais pas ce document, que même à distance d'années, elle n'ait pas compris les enjeux. Mais bon, Ciano le disait tout le temps, et Mussolini aussi, elle était... probablement, elle n'avait pas une vision politique très nette.
En tout cas, dans votre livre, Ottavia Casagrande, vous racontez encore une histoire complètement dingue. C'est qu'au moment où les Allemands envahissent la France et que les armées anglaises et le peu qui restait de françaises se retrouvent dans la poche de Dunkerque et de Calais, que c'est le moment que choisissent votre grand-père Raimondo et son amoureuse Cora, l'agent anglaise, pour traverser l'Italie en corbillard, puis la France, se retrouver à Paris qui est en pleine débâcle, puis aller vers Calais volontairement au milieu des éclats d'obus pour essayer de passer. Il passe en Angleterre.
Oui. D'abord, il le fallait. C'est, disons, la mission personnelle de Raimondo à ce point de sauver Cora, parce que il y avait la police politique italienne qui était à ses trousses, et donc il veut. Elle est très jeune, Cora. Elle a 20 ans. Mon grand-père en a 23 dans le livre, en fait. Ils sont tous deux très jeunes et inconscients, disons. Donc, il veut absolument qu'il rentre en Angleterre parce que il sait que l'Italie va rentrer en guerre et à ce moment-là, être un espion en territoire ennemi, ça devient sérieux. On risque la mort. Et l'autre chose que je trouve fascinante, c'est en fait que il n'y avait pas d'information. On ne savait pas exactement ce qui se passait. Quand ils partent en mai, ils savent plus ou moins des opérations au nord de la France, mais on n'a aucune idée qu'en 10 jours, Hitler arriverait à la mer. Les Français même, en fait, étaient assez tenus à l'obscur de ce qui se passait réellement dans les champs de bataille, et en Italie encore plus. Donc, ils partent et ils ne savent pas ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment l'inconscience et la désinformation. Il faut aussi dire que Raimondo était vraiment très courageux et il avait une sorte de jeu de séduction avec la mort et avec le risque. Et donc, il aimait ça. C'était son bain.
Tornerai perché tuo cuore preso dall'amor. Senza i baci tuoi non so se vivere potrò.
Vagabonde sur France Inter.
Vie de débauche, sexualité débridée, cocaïne, morphine et alcool, voici les mots les plus récurrents du dossier que la police fasciste, également connue sous le nom d'Ovra, a constitué sur la personne de Raimondo Lanza di Trabia, mon père. Lui sont reprochés, entre autres, ses fréquentations douteuses et l'habitude impardonnable d'écouter Radio Londres. Ce sont les feuillets épars d'un dossier jauni et poussiéreux, exhumé des archives nationales, couvert de commentaires manuscrits, pattes de mouches nerveuses et indéchiffrables, ou dactylographiés avec force faute de frappe. Les informations rassemblées sont pour l'essentiel des bruits de couloirs, des rumeurs parfois discordantes, voire totalement contradictoires. Vagues, diffamatoires ou insidieuses, elles sont toutes rédigées dans l'inimitable style sentencieux et paperassier des délateurs du régime. Souvent annotés au crayon, de diverses couleurs, avec d'énigmatiques signatures en bas de page, des paraphes et des chiffres éparpillés dans les marges. Les plus détaillées et malveillantes portent la signature du lieutenant-colonel Santo Emanuele, chef de la section Bonsignor du SIM, le service d'information militaire, responsable de l'assassinat des frères Rosselli, célèbre pour son savoir-faire en matière de constitution de dossiers compromettants à des fins de chantage.
Ottavia Casagrande, vous reproduisez dans votre livre L'espion inattendu des extraits du dossier copieux que les services secrets mussoliniens avaient constitué sur votre grand-père Raimondo. Et on se rend compte que, en fond, depuis la guerre d'Espagne, depuis qu'il avait refusé de collaborer avec les services secrets italiens à ce moment-là et de trahir les républicains, il était sous surveillance. Et vous dressez le portrait de Santo Emanuele, le patron de ces services secrets, qui était le responsable de l'assassinat des frères Rosselli sur le territoire français. Et en fait, c'est un véritable roman d'espionnage, parce que on se rend compte que Raimondo le savait, et lui aussi a entrepris une sorte de petite guerre contre Santo Emanuele, à qui tuerait le premier l'autre.
Oui, disons, je crois que Raimondo était très jeune à l'époque, il était plus naïf que Santo Emanuele. Moi, je crois que c'est un roman d'espionnage, mais c'est surtout un roman de formation. Parce que c'est l'histoire d'un jeune homme qui naît en 15, donc éduqué pendant le fascisme, avec tous les slogans qu'on a entendus même avant. Et donc, malgré une famille qui n'a pas de sympathie pour le régime, croit et devient adulte dans cette atmosphère. Et petit à petit, parce qu'il a une vision privilégiée dans les coulisses de l'histoire et du pouvoir, parce qu'il a accès à Ciano, à Edda aussi, il comprend que le régime est une grande blague. Et c'est la réalisation de ça, petit à petit, morceau après morceau, et comprendre que Santo Emanuele, qui était son supérieur aussi, pas direct, mais son supérieur dans les services secrets, était tout à fait corrompu et en train de travailler pour les Allemands, c'est un de ses pas vers la prise de conscience du système politique italien.
À la déclaration de guerre, il quitte la Grande-Bretagne alors qu'on lui propose de rester et de travailler du côté des Alliés. Donc, au fond de lui-même, il y a quand même le fait qu'il est italien, il doit rentrer dans son pays. Donc, il y a aussi cette conscience que, même s'il trahit beaucoup de gens et qu'il joue des tas de jeux bizarres, il faut qu'il rentre chez lui. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Il est jeune, il a 23 ans. Il ne va pas faire la guerre, il n'est pas enrôlé. Qu'est-ce qu'il devient? Parce que vous nous laissez sur sa
oui,
fin.
Oui, effectivement, il y aura sûrement un autre livre sur Raimondo qui est le deuxième tome de celui-ci, sur la fin de la guerre, qui raconte aussi des diari de Ciano, du journal de Ciano. En fait, c'est très intéressant ce qu'il fait pendant la guerre parce qu'il rentre. Il est fiancé avec Susanna Agnelli, il décide donc de se marier, un mariage qui n'arrivera pas. Mais il ne combat pas. Il ne met pas l'uniforme jusqu'au 25 juillet, quand Mussolini tombe. Et donc, il est en fait mis au repos et il ne va pas combattre. Ce qui d'ailleurs, Susanna Agnelli l'écrit dans son livre, était assez étrange pour lui, parce que c'est un homme d'action. Et d'ailleurs, il a fait la guerre d'Espagne après la Deuxième Guerre mondiale. Il a vécu la plupart de sa vie en guerre. Pour lui, c'était
normal, c'était sa vie.
La guerre. Et même après, quand finalement il y aura la paix, ces méthodes, disons, dans le foot ou dans toutes les entreprises qu'il entreprend après, il utilise des méthodes d'espionnage, donc de dépistage des ennemis, des adversaires, et de les épater, de les confondre pour avoir le dessus.
Alors, je le disais, Ottavia Casagrande, au début de l'émission, ce livre, il est complètement rocambolesque. Tout est vrai. Et alors, la cerise sur ce gâteau incroyable, c'est le fait que tous les trous qu'il y avait dans cette histoire, vous n'aviez que le côté des services secrets pour raconter ses exploits pendant l'avant-guerre et le début de la guerre. Et au fond, ce qui manquait, c'est-à-dire son séjour en Grande-Bretagne, ses rapports avec l'espionne Cora, c'est la fille de Cora qui vous les apporte, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand vous publiez le premier tome, ça, celui-ci est le deuxième, vous êtes contacté par l'intermédiaire de votre éditeur, par une Anglaise, vous pensez qu'elle est un peu cinglée, et en fait vous allez la voir, et elle a l'autre partie de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire vue du côté de sa mère, Cora.
Oui. Alors nous, on savait rien en fait de cette mission spécialement. C'est assez intéressant comment est-ce qu'on a su qu'il était en fait un espion, parce que alors il y avait cette blague qui circulait que disait c'est un secret pour personne que Raimondo est un agent secret. Mais on savait rien de plus. quand on a retrouvé la valise, dans la valise, il y avait aussi un passeport avec un nom alias, qui n'était pas son nom, avec les mêmes initiales, mais c'était pas son nom, avec sa photographie et tout. Et alors ça, c'était la première preuve que effectivement, il travaillait pour les services secrets. À ce point, on a commencé nos recherches dans les archives américaines, on a découvert tout ce qu'il a fait avec les alliés vers la fin de la guerre, quand il débarque en Italie. Mais on connaissait pas du tout cette histoire. Quand le premier livre est sorti sur sa vie, c'était, je dois dire, très émouvant parce que beaucoup de gens, quand on a fait les présentations à Rome, dans toute l'Italie, il y avait beaucoup de lecteurs qui sont venus à nous en nous disant « je me le rappelle, je l'ai connu, mon grand-père était son aide de radio pendant la Rome occupée ». On a même retrouvé, disons, des parts de famille, des membres de la famille dont on avait totalement perdu les traces. Et donc, quand Géraldine nous a contactés, on n'était pas trop... Parce qu'il faut dire que c'était un personnage tellement exceptionnel que tous ceux qui l'ont rencontré, même une seule fois, se rappelaient exactement quand, dans quelles circonstances, et ils avaient une impression de lui. Et donc, quand Géraldine nous contacte, on n'est pas trop... On en avait déjà pas mal mis ensemble un dossier d'autres témoignages. Mais ce qu'elle nous raconte était quand même assez spécial. Et on a eu l'impression que elle pouvait quand même un peu exagérer parce que c'est vraiment romanesque ce qu'elle nous raconte, mais elle connaissait tellement bien des détails pas officiels aussi, et elle nous a fait aussi des portraits tellement précis de Ciano par exemple ou de Sant'Emanuele dont elle se rappelait, elle avait jamais su le nom par exemple. Et c'est je dois dire ce qui est fascinant dans la reconstruction de la vie de Raimondo, qui a tellement de mystères et de secrets, c'est que c'est comme une charade. Chaque fois on a des indices et il faut, et c'est ça le métier de l'écrivain, il faut les relier pour résoudre la charade. Et c'est là aussi où on invente un peu, parce qu'il faut trouver les passages psychologiques qui justifient des passages tellement étranges ou incongrus ou spéciales.
Eh bien voilà, c'est un livre tout à fait passionnant à découvrir. Il s'appelle « L'espion inattendu ». Il est traduit par Marianne Forobert. Il vient de paraître aux éditions Liana Levy. Et Ottavia Casagrande, la petite fille de cet espion inattendu, est venue nous en parler ce soir. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.